Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien cette semaine. Emmanuel avec vous pour parler d'un sujet qui nous donne des ailes. Oui, on parle de liberté cette semaine et de toutes les personnes à qui je parle, surtout dans le cadre d'entrevues, quand je leur demande ce qui les rend heureux dans la vie, une grande majorité nomme d'emblée la liberté. Que ce soit en termes de temps parce qu'ils ont pris leur retraite et que là, ils ont le temps de se vouer à des choses qui leur tiennent à cœur ou encore d'avoir pris la décision de travailler à leur compte, de faire ce qu'ils aiment de manière autodidacte, avoir une page blanche hein, comme plage de travail. La liberté, ça fait partie de la définition automatique de la plupart des gens. Mais comme toute chose, tu sais, la liberté, on n'a pas tous la même définition de ce que c'est. Et c'est pas tout le monde qui vit cette liberté-là ou ce besoin de liberté-là de la même façon ou dans le même domaine, si je pourrais dire. Comme dans l'exemple d'avoir une carte blanche pour travailler, pour certaines personnes, c'est aucunement un contexte qui est attirant. Pour eux, avoir un cadre, une structure, une ligne directrice, ça correspond beaucoup plus à ce qu'ils ont besoin. Mais peu importe ce que la liberté veut dire pour nous, il n'en demeure pas moins que c'est plutôt rare de rencontrer quelqu'un qui ne se souhaite pas d'être libre, hein, qui souhaite en fait de vivre dans des balises constamment. D'avoir une prison comme vie, c'est rarement le besoin vital qui nous anime, on va se le dire. Donc, on peut se souhaiter la liberté financière, la liberté d'aimer qui on veut, la liberté de penser ce qu'on veut, la liberté de dire et de faire ce qu'on veut quand on veut. La liberté de notre temps, la liberté de notre corps, de notre esprit. Et c'est là qu'on voit l'omniprésence et donc l'importance d'être libre dans nos vies. Et surtout à quel point, des fois, on ne peut pas voir qu'on n'est pas libre, tellement la liberté, elle se manifeste de différentes façons, partout, constamment. Donc, est-ce que notre liberté s'arrête vraiment là où la liberté des autres commence? Et si oui, est-ce qu'on peut vraiment être libre? Ou est-ce que la liberté devient un peu une illusion? C'est quoi les limites de la liberté? C'est la vie, c'est les autres, c'est nous-mêmes. C'est quoi notre plus grande prison? On en parle cette semaine avec notre invitée, l'écrivaine Sophie Bienvenue. Bienvenue à Emmanuel, avec un M et deux L.
She's a good girl. Loves her mama, loves Jesus, in America too. She's a good girl, is crazy about Elvis, loves horses, and her boyfriend too. And it's a long day, living in Reseda. There's a freeway running through the yard, and I'm a bad boy, 'cause I don't even miss her. I'm a bad boy for breaking her heart.
Free falling.
quand on pense à la liberté, on pense souvent à la liberté physique. C'est comme la première chose qui nous vient en tête, c'est d'être libre physiquement. Moi, personnellement, quand on dit liberté, je vois une prison. En fait, quand on me dit manque de liberté, je vois une prison, une vraie, là, avec des barreaux, un horaire calculé, de laquelle on ne peut pas nécessairement, pas du tout déroger. Et quand j'étudiais en intervention en délinquance, j'étais constamment en contact avec des histoires qui avaient lieu dans des institutions, que ce soit la prison, le centre d'accueil, une maison de réhabilitation, un centre jeunesse. Et dans cette période-là, j'en parlais souvent avec mes amis, puis avec conviction aussi, hein, la prison, la perte de liberté d'un homme, c'est pire que la mort elle-même. J'ai une très belle vision de la mort, mais n'en demeure pas moins que c'est une expression qui reste forte. D'être confiné, c'est définitivement pas une vie. Et ce qui est un peu paradoxal, c'est que la liberté physique, ça peut aussi être une question de corps, être libre dans son corps. On a tous croisé dans notre vie une histoire qui nous parle d'un homme ou d'une femme qui, à cause d'un accident ou une maladie, est devenu un peu prisonnier de son corps. Et si vous avez jamais eu la chance de faire face à une telle histoire, et je dis bien la chance, vous perdez par le fait même la chance de réaliser comme vous êtes chanceux d'être libre dans votre corps. Qu'on parle de maladies dégénératives, de paralysies de toutes sortes. Et oui, le paradoxe, c'est que je suis moi-même en fauteuil roulant avec un handicap et malgré tout, je me sens libre. Et je trouve que ça parle fort, non seulement du millième paradoxe qui m'habite entre la conviction qu'être confiné, c'est pire que tout et le fait qu'on puisse me considérer moi-même confiné. Parce que la liberté, ça va beaucoup plus loin que ça. Hein? On peut penser à l'expression « à un libre penseur ». Tout le monde regarde un libre penseur avec un peu une adulation. Hein, c'est celui qui va au-delà des convenances, qui innove dans sa façon de voir et d'expliquer les choses, qui viennent d'un fonctionnement réflexif très, très personnel. Mais pourtant, on ne se le permet pas souvent. En fait, malgré notre besoin vital d'être libre à plusieurs niveaux, on ne se le permet pas autant qu'on le pourrait ou qu'on le devrait, dans les savoirs. Mais la liberté de penser, c'est une de mes libertés les plus importantes. Elle est la liberté d'utiliser mon temps comme je le veux. Et c'est ce que je fais ici avec vous à chaque semaine. Moi, quand j'ai des idées pour l'émission, des fois, l'inspiration vient à 3h45 du matin. C'est arrivé que je me suis réveillée et que j'avais envie de venir écrire là à mon ordinateur et j'ai écrit. Vivre ma vie selon mon inspiration et non selon un horaire imposé, c'est la plus grande liberté pour moi. Et ça implique donc la liberté de mon temps, oui, qui est en tête de liste, celle de penser, donc la liberté de penser, et celle de m'exprimer aussi. Parce qu'ici, on parle d'une liberté de contenu, de sujet, de musique. Ce que je fais avec vous, c'est ce qui m'est permis, et ça, ça n'a pas de prix pour moi. Et justement, parlant de liberté de s'exprimer, on peut penser à la liberté d'expression. Être libre de s'exprimer, c'est un luxe dont on ne voit pas souvent toute la splendeur. Imaginez, on s'imagine la prison des mots. Le fait d'être muet complètement. Comment on se sent? Et encore être muet, ça vient avec l'opportunité maintenant de pouvoir s'exprimer autrement par le langage des signes, un dessin, la danse, il y a pire. La prison de la parole, elle existe ailleurs dans le monde dans des formes beaucoup plus graves. Dans plusieurs pays, on ne peut même pas ouvrir la bouche pour exprimer ce qu'il y a à l'intérieur. Ni faire les pas de danse qu'on souhaite, ni non plus aller sur les sites Internet qu'on veut, ni non plus syntoniser les postes de télé qu'on veut. Il y a un contrôle extérieur des sources d'apprentissage et de divertissement et d'expression de soi. Comment on se sent quand on y pense, sincèrement? On se met dans cette position-là et on peut maintenant ressentir à quel point on est plus libre qu'on pense à chaque moment et on ne le voit pas toujours. Et quand on aborde la liberté d'expression, nécessairement, ça m'amène à réfléchir, à savoir si la liberté d'un homme se termine quand la liberté d'un autre est atteinte. Et on en a parlé souvent. C'est un peu ce que fait ressortir cette question sur la liberté d'expression. Est-ce qu'on brime vraiment la liberté des autres avec la liberté d'expression dans le cas où cette liberté-là nous amène à être blessant, voire méchant? Est-ce que c'est vraiment vrai qu'il y a une limite à la liberté à laquelle on peut se donner le droit? C'est une des premières limites à la liberté que je vois et comment on l'applique à ce moment-là. Est-ce que la liberté, elle existe vraiment? Et je pense qu'on peut dire que oui, parce qu'on est libre de le faire ou non. On est libre de dépasser la liberté d'un autre pour s'autoriser la sienne. C'est vrai. Mais je pense que si on doit piler sur les autres, sur leurs droits, leur bien-être, leur estime pour se sentir libre, Il y a quelque chose à l'intérieur qu'il faut vraiment aller réévaluer. Et j'irais même jusqu'à dire qu'on est soi-même assez prisonnier et très peu libre pour plusieurs raisons. Parce que la plus grande prison qui existe, elle est à l'intérieur de nous et on est notre plus grande prison. Et là, je parle de nos pensées, de nos émotions, de nos perceptions. En quoi nos pensées peuvent être une prison? Tu sais, on dit souvent « penser, c'est bien, mais réfléchir, c'est mieux ». Je ne sais pas si vous avez déjà entendu ça, mais c'est vrai. Et nos pensées nous gardent, nous préservent de tellement de choses inutiles qui en viennent souvent une prison. On est prisonnier de plusieurs schémas de pensée qu'on entretient sur nous-mêmes, sur le monde. On est prisonnier de nos croyances. Si on croit que le monde est dangereux, pensez-vous qu'on est libre d'aller se promener dans les rues à l'heure qu'on veut? Je pense pas. Et quand je vous ai posé la question sur les réseaux sociaux, sur ma page personnelle Emmanuel Robitaille, il y a quelqu'un qui m'a répondu une réponse qui était très, très exhaustive et très riche en contenu concernant justement nos pensées. Et pour cette personne-là, le fait d'être en couple, en fait, était une prison. Pour lui, être à deux, c'était une prison et c'était pas quelque chose qui était en accord, je dirais, avec sa vision de la liberté. Et là, je me pose la question, eh bien, si on pense qu'en couple, on n'est pas libre, bien, à ce moment-là, on devient prisonnier de la pensée qu'un couple, c'est une prison et donc on devient pas libre de tomber en amour, on devient pas libre, on devient un peu prisonnier du fait qu'on doive être seul et qu'on ne puisse être accompagné pour se sentir libre. Et on peut parler des émotions aussi. On peut se demander, premièrement, si on est libre de ressentir ce qu'on veut ressentir quand on le ressent. Clairement, les émotions, c'est un aspect où on peut être libre ou non. Est-ce qu'on est libre de tomber en amour ou on pense... Quand on pense que l'amour, ça fait mal et qu'on pense qu'on ne peut plus tomber en amour et qu'on ne peut pas ressentir cette émotion-là sans vivre de la douleur, je ne pense pas. Être prisonnier des autres, de nos parents, de nos amis, de nos conjoints, de nos collègues, de notre patron, nommez-les. Quand on fait des choses en fonction des autres, on n'est pas libre. Nos émotions, ça va loin. La rancune nous rend prisonniers de nous-mêmes. Quand on vit dans la rancune, on n'est pas libre d'aimer. Le pardon, c'est le remède. Mais tant qu'on a de la rancune, on nourrit en soi-même des limites à pardonner, à accepter et surtout à avancer, à passer à autre chose, à s'ouvrir. On est clairement prisonnier d'une personne, d'un événement ou du passé. La peur, c'est la plus grande limite à la liberté. La peur d'échouer fait qu'on commence rien. On n'est pas libre d'entreprendre de projets, de réaliser de rêves, de prendre des risques parce qu'on a peur de ne pas réussir ou on a peur des conséquences. On n'est pas libre de soi-même parce qu'on a peur du ridicule, on a peur de ne pas se faire accepter. On a peur de changer d'emploi parce qu'on a peur de perdre notre sécurité. Ça va loin. Pour être libre, il faut se sentir libre. Il faut être libre à l'intérieur. Ça ne dépend pas d'un contexte. Quand tu es libre à l'intérieur, tu peux avoir quatre murs qui t'enferment, tu réussis à respirer. Quand tu es libre à l'intérieur, tu peux avoir un champ entier où naviguer. Tu vas savoir quoi en faire. Si tu n'es pas libre à l'intérieur, on peut te donner tout l'espace que tu veux ou que tu penses avoir besoin, on ne saura pas quoi en faire. On continue à parler de liberté dans quelques instants avec notre invité. Sophie, bienvenue. Elle nous a donné les merveilleux romans « Et au pire, on se mariera »,« Cherchez Sam » et « Autour d'elle ». Elle est récipiendaire de nombreux prix littéraires. Son écriture est vraie, elle est profonde, elle est parfois controversée dans son intensité, dans son audace. Comme écrivaine, comme femme, la liberté, elle est très importante pour elle. Elle lui accorde une attention particulière. Elle est avec nous pour nous en parler aujourd'hui. Sophie, bienvenue. Bonjour.
Bonjour.
Comment vas-tu?
Ça va très bien et toi?
Oui, merci. Merci d'avoir accepté l'invitation. Très heureuse de parler avec toi de la liberté parce que quand on s'est parlé pour la première fois, tu as dit d'emblée, « Oh mon Dieu, mais moi, la liberté, c'est mon sujet. Ça m'anime. »
Oui, c'est ça. C'est vraiment, on ne pouvait pas mieux tomber que ça pour moi, là. Oui, c'est vraiment ça qui m'anime tellement que je me suis tatouée un loup sur le bras. Pour moi, ben, pour beaucoup de raisons, c'est le symbole de la liberté. Donc une fable de La Fontaine, le loup et le chien. Fait que c'est à ce point-là important pour moi que je me suis tatouée. Ouais.
Et tu t'es fait un tatou qui reflète cette fable que tu aimes et qui représente la liberté pour toi. Et donc, tu as un loup de tatouer sur le corps. Tu l'as fait à quel moment dans ta vie? Donc, à quel moment tu t'es dit, moi, être libre, c'est primordial?
C'est quand j'ai arrêté de travailler. Disons, quand j'ai arrêté de faire du 9 à 5 et que j'ai vraiment. Je me suis dit en 2013 qu'il fallait que je fasse le saut maintenant. J'avais 33 ans d'essayer de vivre de mon art, finalement.
Mm-hmm.
Et ça fonctionnait. Les trois premiers mois, je me suis pas retrouvée à la rue. Donc, je me suis dit, mon Dieu, ça fonctionne. Et je me sentais tellement bien que je me suis fait ce tatouage-là pour me souvenir, en fait, de cette sensation de bien-être.
Donc, être libre, c'est se sentir bien. Mais c'est quoi être libre pour toi? Ça implique quoi?
C'est différent pour chaque personne. Hein. Mm-hmm. Donc là, tu me demandes pour moi, mm-hmm. c'est important de le préciser, mais pour moi, c'est je dis pas que je l'ai atteinte. Hein. C'est à ce à quoi j'aspire. Mais,
c'est le travail d'une vie.
C'est ça. Mais disons que c'est d'avoir le moins possible de contraintes extérieures qu'on n'a pas choisies. Parce que je pense pas qu'on puisse vivre sans contraintes. Mais pense que ça fait avancer aussi les contraintes, mais il faut les avoir choisies, puis il faut savoir lesquelles pour être vraiment libre, en fait.
Donc, toi, le fait qu'on mette des limites qui ne sont pas les tiennes représente ta prison, finalement.
Exactement, c'est ça. C'est d'être pogné dans un carcan que j'ai pas choisi, auquel j'adhère pas, que j'ai du mal à comprendre, à concevoir. Ça, pour moi, c'est terrible. C'est une aliénation totale.
Mm-hmm. Donc, être libre, pour toi, c'est faire ce que tu veux, faire des choses qui correspondent à qui tu es. Et on a parlé ensemble et tu m'as nommé clairement ta difficulté avec l'autorité et je la partage aussi. Et je ne sais pas, ceux qui nous écoutent présentement, si vous nous écoutez, si vous vous reconnaissez également dans ce portrait de caractéristiques personnelles-là. Et tu m'as donné l'exemple suivant. Tu m'as dit... par exemple, si un serveur au restaurant qui vient me porter une assiette et qui me dit « Attention, l'assiette est chaude », tu vas avoir quasiment tendance à aller te mettre le doigt dessus simplement parce que c'est comme quelque chose qu'on t'a dit de pas faire. Donc, un petit, j'appelais ça un trouble oppositionnel, là, plus ou moins. Est-ce qu'on devient pas un peu, finalement, quand on est en réaction comme ça, aux limites qu'on nous met à l'extérieur de nous, comme toi, ça fait partie de ta définition de la liberté, est-ce qu'on devient pas un peu prisonnier de ces réactions-là, un peu paradoxalement?
Ben oui, un petit peu, c'est sûr que disons que j'essaye de travailler contre aussi, contre ça pour j'ai beaucoup c'est pas un secret là, je suis Asperger et donc mon autisme a tendance à m'emprisonner dans plein de choses aussi, puis dans l'anxiété, les névroses, etc. Pour moi, c'est un petit peu la même chose. Que tout ça, c'est j'essaye d'aller contre, mais disons de me pousser à sortir de ce carcan-là, en fait, finalement, qui m'est imposé par la nature, finalement. Mm-hmm. Mais en même temps, paradoxalement, c'est quand même le fun de pouvoir dire je suis libre, je suis cette personne-là, je suis là avec mes bizarreries d'autiste, mais en même temps, c'est moi et je suis libre d'être qui je suis. Donc c'est un questionnement continuel où je ne sais jamais finalement. C'est quelque chose que je ressens quand c'est bien, quand c'est mal, quand je me sens libre de faire quelque chose. Et il y a des choses qui me comme l'histoire du serveur, c'est trop bon. Je le ressens physiquement, il faut que je touche l'assiette. Là. Et c'est quelque chose que même si je voulais travailler là-dessus très fort, au mieux, ça me prendrait des années de psychothérapie. Puis, c'est-tu vraiment nécessaire?
Effectivement, choisir ses combats, c'est quand même une bonne idée, mais l'idée ici est super intéressante quand tu dis j'ai beaucoup de contraintes à l'intérieur de moi, mais les contraintes que je me mets seule, je les accepte davantage et des contraintes, parfois, ça me permet d'avancer. Comment ça se place? En quoi ça devient un moteur?
Ben, c'est de... Tu fais quelque chose... Si on parle professionnellement, c'est un exemple professionnel que je vais donner, mais j'écris un livre et j'ai eu du fun à l'écrire. Les gens m'ont aimé, il a bien fonctionné, etc. Je veux pas refaire la même chose. Mais instinctivement, c'est sûr que je referais la même chose. Parce qu'on ne veut pas, on est des êtres d'habitude, et puis il y a la solution de facilité, etc. Donc, apporter une contrainte supplémentaire, ça fait qu'on fait différent et qu'on s'améliore et qu'on se redéfinit, qu'on apprend toujours, en fait. Mmh. Et c'est en ça que les contraintes qu'on s'impose ou que d'autres personnes qu'on a choisies nous imposent, ou des contraintes, par exemple, tu sais, je suis quelqu'un qui peut paradoxalement respecter les lois à la lettre, et qui peut, tu sais, en auto, là, je peux vraiment me fâcher quand quelqu'un ne respecte pas une loi qui fait du sens pour moi. Mais par contre, une autre loi qui ne fait aucun sens pour moi, là, je vais la allègrement ne pas la respecter.
J'entends. Donc, tout revient à l'intérieur de toi. On prend quelques minutes et on continue de parler de liberté avec toi. Reste à l'écoute. Vous écoutez toujours Emmanuel avec un M et deux L sur le Canal M et on continue de parler de liberté avec Sophie. Bienvenue dans quelques instants. Avec Sophie, bienvenue. On parle encore de liberté. Sophie, c'est très intéressant de t'entendre sur la fonction des contraintes et tout ce qui est contraintes extérieures et intérieures. Mais la question est la suivante. Je veux savoir, pour toi, est-ce que notre liberté s'arrête ou celle des autres commence?
Ça, c'est toujours la question.
Hein, effectivement.
Avec la liberté. Là,
je t'écoute.
Ça nous amène à parler... de liberté d'expression, mm-hmm. etc. Mm-hmm. Et moi, je te dirais, j'ai pas la réponse, je l'ai pas, mais j'aurais toujours tendance à choisir la liberté à tout prix, finalement, là, mais dans le, si on parle de liberté d'expression, dans le dialogue, tu as le droit de dire tout ce que tu veux. Et tant que ça, si c'est pas une menace là, si on parle pas de menace de mort, etc. Mais j'ai le droit de te répondre. Mm-hmm. Et donc, pour moi, couper la liberté de quelqu'un, la réponse. C'est rarement ça, en fait. C'est rarement de lui interdire quelque chose, mais plutôt pour moi, en fait, d'instaurer un dialogue et de faire coexister les deux. Je pense que c'est possible. Je suis peut-être utopiste, là, mais... donc, je te dirais... Oui et non.
C'est parce que c'est intéressant, parce que si on se dit, OK, donc moi, je suis libre jusqu'à ce que la liberté de quelqu'un d'autre commence, donc est-ce que c'est possible d'être libre dans ce contexte-là, tu sais?
Oui, non, mais c'est très vrai, mais peut-être que je m'exprime mal là-dessus, mais...
T'es libre de t'exprimer comme tu le veux.
Merci. Mais non, j'ai vraiment, comme je te dis, là, j'ai vraiment l'impression que c'est... Si on reste dans les limites de ce que les sociétés de la société, là, que la société donne. Donc, je te parle pas de tuer quelqu'un. Je pense qu'on peut tous cohabiter et coexister. Je crois vraiment que c'est possible. Et que d'interdire, c'est rarement la bonne... D'interdire à quelqu'un de faire quelque chose parce que ça brime la liberté d'un autre.
Oui, puis ils vont avoir tendance à faire le contraire, comme se mettre la main sur une assiette chaude, par exemple. C'est possible, ça.
Exactement. On le voit. Mais on le voit avec les enfants aussi.
Oui.
Puis je sais que je reviens toujours à la liberté d'expression parce que c'est quelque chose qui me tient à cœur.
Oui, puis dans la liberté d'écriture aussi, tout à fait.
Exactement. Mais si t'empêches à quelqu'un de dire quelque chose, si tu l'ostracises pour ce qu'il dit, il va continuer à penser ça. Il le dira peut-être plus, mais et c'est quelque chose que si tu ouvres le dialogue avec cette personne-là, là, c'est là que ça va être, qu'il va se passer quelque chose d'important et que il va, ou alors la personne va changer d'idée, ou alors toi tu vas essayer de comprendre. Mais c'est pas en interdisant quelque chose que ça fait changer, en fait, qu'on obtient ce qu'on veut. Tu sais, comme c'est la même chose avec les pitbulls, avec les plein de choses interdites. J'ai été élevée par des parents qui ont été marqués beaucoup par mai 68 et en France, et, il est interdit d'interdire ça. J'en avais dans mon biberon. Donc, c'est ça. Donc, j'ai un petit peu de misère avec le brimage de liberté.
Et donc, toi, tu en fais un mojo de vie que de laisser les gens autour de toi être libres à ce moment-là. Ça devient important
écoute,
pour toi et pour ceux qui t'entourent.
J'essaye, mais tu sais, c'est sûr que égoïstement, on revient à ça, oui, mais c'est ma liberté, puis ma liberté est importante. C'est sûr qu'égoïstement, on en revient à ça. Mais c'est aussi un travail, si c'est un travail pour moi, d'aspirer et d'arriver à plus de liberté dans ma vie, que ce soit professionnelle ou personnelle, c'est aussi un travail de la supporter, dans le sens vraiment de la soutenir et de l'accepter chez les autres.
En considérant que la... liberté prend plusieurs formes. Il y a des formes qui sont plus évidentes que d'autres. Et on regarde à travers le monde des endroits où la liberté que nous, on a droit ici au Québec, c'est absolument inconcevable. Par contre, on voit qu'il y a quand même des libertés qui sont plus subtiles. Est-ce que tu crois qu'on est aussi libre qu'on pense?
Ben non. Honnêtement, non, parce que, mais en même temps, encore une fois, chacun met sa liberté. Chacun a sa définition propre de liberté. Pour quelqu'un qui aurait été ostracisé pour son orientation sexuelle,
oui.
Pour lui, la liberté, ce sera de pouvoir s'affirmer dans sa sexualité, par exemple. Pour moi, comme je le disais en début d'émission, c'est autre chose. Pour moi, le système capitaliste... Et puis là, je veux pas brûler, je me balade pas dans la rue avec mon drapeau rouge, mais toujours est-il que le système capitaliste, pour moi, c'est une aliénation.
C'est une prison cachée un peu.
C'est une prison cachée, c'est ça. Son infâme, le patriarcat, là, tout ça sont des effectivement, comme tu dis, des prisons, mais on se rend pas compte qu'on est emprisonné là-dedans. J'ai un exemple rapide où certaines féministes disent que les femmes ne devraient pas être voilées. OK, parce que c'est anti-féministe. D'accord, mais est-ce qu'une femme peut poser nue sur un magazine? Est-ce qu'elle peut porter des vêtements sexy? Parce que c'est la même aliénation. Mmh. Quelque part, c'est l'aliénation de la religion, c'est pas la mode. Mais par contre, l'aliénation du désir masculin, ça, lui, c'est correct. C'est toujours de mettre en perspective un petit peu les choses. Tu vois ce que je veux dire?
Tout à fait, dans le sens où c'est pas ce que nous on considère comme étant la liberté qui peut être la liberté des autres. C'est ce que j'entends
exactement,
ici.
Exactement.
C'est ça. Exactement. Et rapidement, j'aimerais vraiment savoir, pour toi, c'est quoi le premier pas vers vivre une vie plus libre? Si on a une chose à faire aujourd'hui.
Mais je pense que c'est de faire une petite introspection, comme un peu ce qu'on a fait aujourd'hui,
oui.
De savoir qu'est-ce que c'est pour nous être libre. Et déjà réfléchir à ça, est-ce que c'est faire son coming out, est-ce que c'est avoir plus de temps avec ses enfants, est-ce que c'est passer sa vie à peindre au lieu d'être comptable, whatever, c'est il y a pas de mauvaise réponse, mais ensuite une fois qu'on l'a identifié, bah c'est d'essayer de poser des petits gestes pour vivre selon ses principes puis selon ce à quoi on aspire.
Sophie, en plus des deux longs métrages sur lesquels tu travailles actuellement, je sais, tu m'as confié que tu as écrit la première ligne de ton futur roman et j'ai très, très, très hâte de le lire. Merci d'avoir été avec nous et d'avoir partagé ce que tu as à l'intérieur.
Merci de m'avoir invité.
Merci infiniment. Bonne journée.
Attendre et faire des tours, attendre que l'aiguille court, que les réponses viennent. Même une fumée dans la plaine. Attendre que passe le jour, attendre qu'on vienne au secours des questions que je traîne et de ces envies qui m'enferment. Attendre ou bien rester couché, assis à genoux à tes pieds. Aujourd'hui je m'en fous, y'a qu'une façon pour que tourne la roue debout. Moi je prends mes quartiers, je garde ma tête, ma liberté. Depuis que j'attends rien, ni des étoiles, ni des chiens. Debout je peux marcher et même courir à m'épuiser. Mon histoire dans les mains, je me sens bien, je me sens bien, je me sens bien, je me sens bien. Attendre le téléphone, attendre que quelqu'un me sonne pour me pendre au écourt. À la lumière d'un beau discours, attendre qu'on m'assomme, qu'on me prenne encore pour une pomme, qu'on étale en mon nom sa confiture pour les cochons. Attendre ou rester à genoux, attendre de prendre encore un coup avant de devenir fou. Y'a qu'une façon pour que tourne la roue debout. Moi je prends mes quartiers, je garde ma tête, ma liberté. Depuis que j'attends rien, ni des étoiles, ni des chiens. Debout je peux marcher et même courir à m'épuiser. Mon histoire dans les mains, je me sens bien, je me sens bien, je me sens bien, je me sens avant de devenir fou. Y'a qu'une façon pour que tourne la roue debout. Moi je prends mes quartiers, je garde ma tête, ma liberté. Depuis que j'attends rien, ni des étoiles, ni des chiens. Debout je peux marcher et même courir à m'épuiser. Mon histoire dans les mains, je me sens bien. Je me sens bien. Je me sens bien.
Comment on peut vivre sa vie plus librement, vu l'importance primordiale d'être libre? Ce qui est assez paradoxal avec la liberté, c'est que la liberté, c'est à l'intérieur de nous, c'est un sentiment indépendant du contexte extérieur et en même temps, notre plus grande prison est aussi à l'intérieur de nous. Peu importe la situation, peu importe où on se trouve, le sentiment d'être libre, c'est nous qu'ils créons, comme le bonheur, comme la paix intérieure. La liberté, elle va être trouvée en chacun de nous indépendamment des barreaux qui nous entourent, de la pression des gens ou d'un corps malade. Parce que la pression que quelqu'un nous met, si on la prend pas, elle reste à eux, tu sais. Si Bouddha le dit, un cadeau que tu n'acceptes pas ne devient pas tien. Et comme tout part de nous et que la réalité est perception, comme dans l'analogie du cheval, vous avez peut-être déjà vu cette image-là d'un cheval qui est accroché avec une corde du cou à un barreau de chaise. Vous savez, les chaises de patio blancs de 1990 qui sont très légères, mais quand même... non, mais ils brisaient pas facilement. Là, sont quand même résistantes. N'en demeure pas moins que le cheval achoumerait et la chaise partirait. Tu sais, je veux dire, ce cheval-là est complètement libre, mais l'illusion que la corde crée fait qu'il ne bougera jamais de là. Bien, la liberté est ressentie en fonction de ce qui est important pour nous, de ce que l'on perçoit. Et je vais le redire, le sentiment d'être libre, c'est ça, la liberté. Et si on veut vivre plus librement à partir d'aujourd'hui, là, pas demain, là, comme là, là, bien, et Sophie, bienvenue, notre invitée, l'a nommé clairement. De commencer par savoir c'est quoi pour nous être libre. C'est quoi ma liberté la plus importante? Prenez une feuille, là, puis écrivez tout ce que la liberté vous... tout ce qui vous vient en tête en pensant à la liberté, là, que ce soit des personnes, et si ces personnes-là vous influencent ou vous inspirent la liberté, eh bien, décortiquez les caractéristiques de ces personnes-là, vous allez finir par avoir un portrait très clair de ce qu'est la liberté pour vous. Quand vous allez avoir nommé tout ce qui représente la liberté pour vous, bien, mettez du vert, un cœur, un collant, un bonhomme sourire, ce que vous voulez, sur tout ce qui a été atteint dans votre vie et voyez comment vous y êtes arrivé et voyez comment vous vous sentez. Ce sentiment-là est extrêmement important. Et vous me voyez venir, là, regardez tout ce qui reste sur la feuille, nécessairement. Regardez tout ce qui reste sur la feuille et voyez ce qui fait en sorte que vous ne l'avez pas atteint. Énumérez tout ce qui vous empêche de l'atteindre, tout sans filtre. Et faire cet exercice-là, hein, librement, va vraiment, vraiment vous aider à pointer plusieurs choses. Quand on est capable de savoir c'est quoi se sentir libre, tangiblement dans notre corps, dans notre cœur, c'est facile après de savoir quand on l'est et quand on ne l'est pas. Pouvoir identifier quand on est libre et quand on n'est pas libre, ça nous permet de toujours se retourner vers la liberté parce que ce sentiment-là, il est souhaitable. Être libre, c'est souhaitable. Et quand on sait comment on sent quand on est libre, c'est facile de le reconnaître, c'est comme une logique. Et quand on est capable de voir où on n'est pas libre dans notre vie et qu'on considère ça important pour nous d'être libre, parce que ça reste le point numéro un, qu'est-ce qui est important pour moi, bien, ça nous permet, en voyant pourquoi on n'est pas libre à l'intérieur de ça, de trouver notre plus grande prison intérieure. En commençant par la peur. En voyageant tranquillement, en passant par les côtes de la rancœur, de la culpabilité, de la honte, du jugement des autres, et tout ce qui met un frein à la liberté à laquelle on a droit, parce que oui, on y a droit. C'est de se déprogrammer de nos pensées, de nos croyances, qui ne nous permettent pas d'agir en fonction de nos désirs les plus profonds, d'être ce qu'on a toujours voulu être. C'est d'arrêter de fonctionner par conditionnement et penser qu'il faut souffrir pour avoir droit au bonheur, hein, qu'on a... pas le droit d'être fier de qui on est, de s'estimer sans être prétentieux. C'est croire que quand on pardonne, on doit nécessairement accepter et dire oui au mal qui a été fait. C'est de comprendre qu'on peut pardonner en toute sécurité pour soi-même sans avoir besoin de l'approbation ou de la participation de quelqu'un d'autre. C'est faire la différence entre persévérer et s'acharner parce que s'acharner, c'est aller contre soi et on devient prisonnier d'un revers d'une belle qualité. C'est se souhaiter et accepter de recevoir toute l'abondance du monde sans penser qu'avoir de l'argent, c'est être avare et méchant. C'est vieillir en sachant qu'on peut vieillir serein. Que la peur qui entoure la vieillesse, c'est un point de focus qui est choisi par certaines sources d'informations et qui devient normal. C'est arrêter de se mentir à soi-même, c'est être authentique, c'est arrêter de penser qu'on est inadéquat quand on est intègre, c'est arrêter de penser que le jugement des autres définit notre valeur, c'est arrêter de résister au changement en pensant que l'inconnu c'est mal et donc que ça fait peur, c'est se permettre de tendre la main à l'autre sans avoir peur de se faire abuser dans notre gentillesse. C'est arrêter d'avoir peur de suivre son cœur parce qu'on est prisonnier de notre sentiment de sécurité en dépit de bien d'autres choses. C'est ça, se libérer de notre plus grande prison intérieure. Et c'est ce que je fais au quotidien et à chaque seconde. Et c'est ce qu'on fait à cette émission-là et dans cette émission-là ensemble à toutes les semaines. La méditation, c'est toujours une très, très, très bonne idée. Parce que si on se demande c'est quoi se sentir libre, ça nous donne un très, 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 très bon indice pour le pratiquer quotidiennement. Je vous le garantis, c'est quelque chose sortir de sa tête. Ça fait du bien. Ça fait beaucoup de bien. Et c'est se questionner aussi aux limites qu'on met nous-mêmes à notre liberté. Quand on se met des contraintes et qu'on ne veut pas tout à fait être libre, se poser la question pourquoi on fait ça. On a juste à penser à l'expression « chute libre ». Qui aime penser être en chute libre avec rien pour se retenir? Pas de filet, pas rien. Même les parachutistes font des chutes libres entre guillemets là, pendant 8 secondes. Et croyez-moi, sans parachute, ils le feraient pas. Et c'est dans un cas évident de danger physique imminent. Mais il n'en demeure pas moins que se demander ah, je veux être libre de mon temps, mais finalement, peut-être que je ne saurais pas quoi en faire de mon temps, que je ne serais pas plus productif ni plus heureux. Donc, d'avoir des contraintes, ça fait bien mon affaire. Pensons-y.
Par-delà les frontières, les prairies et la mer, dans les grandes noirceurs, sous le feu des chasseurs. Ce n'était qu'une cage. Tu reprendras ta course. Tu iras à la source. Tu boiras tout
Merci, Sophie. Bienvenue d'avoir accepté cette invitation pour venir nous parler de liberté. Merci, Anne-Laure Janson, à la recherche. Merci, Jean-Sébastien, la liberté. Oh, à la régie. Et si vous voulez réécouter cette émission, toutes les émissions d'Emmanuel avec un M et deux L ou toute la programmation du Canal M, rendez-vous au canalm.vusezvoix.com. On est venu au monde, c'est pas pour vivre la vie des autres, pas pour manquer d'air, calculer au centimètre près nos droits. On est venu au monde en toute liberté. On est, et pendant des années, on évolue pour devenir indépendant, hein, voler de nos propres ailes, comme on dit, pour finalement simplement illustrer qu'on part du nid familial. Et quand on regarde ça, se libérer, on le fait depuis le jour 1, en coupant le cordon ombilical pour ensuite aller jouer au grand air. T'sais, on s'obstine pour aller se coucher quand on est jeune, on négocie pour aller prendre un bain ou pas, pour avoir droit à un autre verre de jus ou pas. Et plus tard, on est libre de choisir l'emploi qu'on veut. Libre de choisir. Ce serait la plus grande liberté du monde. Quand on y pense, on est venu avec un droit de libre arbitre. Et c'est ça notre plus grande liberté. Choisir en toute liberté pour dessiner notre chemin, peu importe le contexte dans lequel on évolue, si on est capable de choisir entre la peine et la joie, la rancœur ou le pardon, entre voir des barreaux dans notre fenêtre ou le soleil qui se trouve entre les barreaux, on est libre. Vous êtes libre parce que vous avez le libre arbitre. Et on a toujours le choix, à commencer par choisir de nous sentir libres. Bonne semaine.